Bonjour Émilie Chaudet.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Alors dans les enjeux internationaux ce matin, vous revenez sur la liberté de la presse dans le monde.
Un état des lieux effectivement Anne-Laure, de la liberté de la presse dans le monde, c'est notre sujet du jour dans les enjeux internationaux. Pour en parler, nous sommes avec Christophe Deloire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières, organisation qui milite pour la liberté d'informer et qui vient de publier la semaine dernière son bilan annuel. 80 journalistes tués, 348 en détention, 60 retenus en otage dans le monde. Ce sont les trois chiffres qui ouvrent ce triste rapport, des chiffres en hausse. Autre chiffre qui fait froid dans le dos, 61% des journalistes assassinés en 2018 ont été sciemment visés en raison de leur profession. Constat qui rejoint d'ailleurs celui de vos homologues américains, Christophe Deloire, du Comité pour la protection des journalistes, selon qui les assassinats de représailles à un travail journalistique ont presque doublé cette année et qui fait état aussi d'une augmentation du nombre de journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. On peut noter l'apparition d'un pays comme les États-Unis dans les 6 pays les plus meurtriers, derrière l'Afghanistan, la Syrie et ex aequo avec l'Inde. On peut aussi, dans la suite de cette observation-là, faire un point sur ces assassinats de journalistes qui surviennent dans des pays en paix. Plus de la moitié de ceux perpétrés dans le monde, comme l'indique encore une fois le rapport annuel de Reporters sans frontières, des pays en paix mais aussi des démocraties où les journalistes ne se sentent pas, et à raison, en sécurité. C'est une situation inédite, Christophe Deloire ? Rapport de RSF titre que tous les rapports, tous les voyants sont au rouge.
Oui, tous les voyants sont au rouge. Il y a eu des périodes dans lesquelles le nombre de journalistes assassinés était plus élevé, notamment du fait de conflits extrêmement meurtriers. Le conflit en Irak, qui a été l'un des plus meurtriers. Ensuite, en Syrie, il faut dire que cette année, pour la première fois, il n'y a pas eu de journalistes tués en Irak. Mais en revanche, si on regarde plus globalement dans l'ensemble du monde, tous les clignotants sont au rouge. C'est-à-dire que, qu'on regarde le nombre de journalistes assassinés, le nombre de journalistes pris en otage, le nombre de journalistes détenus, victimes de procédures abusives, ou même victimes de disparitions forcées, tous ces chiffres, toutes ces statistiques sont en augmentation. Donc ça traduit un accroissement de la violence contre les journalistes, qui est lié à de multiples facteurs, mais qui est lié notamment au fait que tous les journalistes qui enquêtent sur des affaires sensibles, qu'il s'agisse des questions liées à l'environnement, à la corruption, aux discriminations, à l'évasion fiscale, y compris sur le territoire européen, puisqu'on a vu que, même si l'Europe demeure de loin le continent sur lequel la liberté de la presse est la mieux assurée, des journalistes y sont tués aussi.
À Malte,
donc,
notamment.
Dès lors que des journalistes font de telles enquêtes, ils sont victimes parce qu'ils sont ciblés par des prédateurs, y compris, et j'aurais dû rajouter, les groupes mafieux, qui en 2 ans ont fait plus de 30 journalistes assassinés. Il faut quand même un sacré courage pour continuer à enquêter sur la mafia dans un certain nombre de pays, que ce soit en Italie ou en un an, 200 journalistes ont fait l'objet à un moment ou à un autre, pas en permanence, mais de mesures de protection, ou que ce soit au Mexique, où on peut finir très aisément, quand on est journaliste dans l'un des États fédérés du Mexique, et notamment le Veracruz, découpé en morceaux. Mais cette année, on a vu que les narcotrafiquants mexicains n'étaient pas la seule à pouvoir découper des journalistes en morceaux, puisque c'est arrivé à Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien, au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul.
Justement, Jamal Khashoggi, on va y revenir là. Il y a eu beaucoup de démonstrations citoyennes d'indignation suite à son meurtre au consulat d'Arabie Saoudite. Il y a eu une pétition récemment en Algérie qui a circulé en ligne contre la venue du prince héritier d'Arabie Saoudite, justement dénonçant ce meurtre de Jamal Khashoggi. Il y a aussi dans le même temps ce procès en appel des deux journalistes birmans de Reuters, de l'agence de presse Reuters, qui enquêtait sur un massacre de civils rohingyas que l'armée birmane a perpétré, massacre qu'a reconnu l'armée. Et là aussi, en Birmanie, il y a beaucoup de démonstrations citoyennes de soutien à ces deux journalistes et d'indignation quant à cette procédure jugée abusive. Est-ce qu'on peut compter sur cette mobilisation citoyenne pour exercer une pression sur les gouvernements concernés? Parce que dans les deux cas, ce sont des gouvernements, des hauts lieux de pouvoir qui sont impliqués dans ces meurtres de journalistes, Christophe Deloire.
Je me garderai bien de prédire l'avenir. Ça n'est pas convenable pour un journaliste que de tenter de prévenir l'avenir. Mais en tout cas, il y a deux mécaniques opposées. Il y a effectivement des résistances citoyennes très fortes et une sensibilité plus forte finalement à la cause du journalisme dans certaines parties des populations des différents pays. Alors dans des situations très dissemblables, on peut difficilement comparer la situation en Birmanie ou d'autre part à Malte et en Slovaquie, mais même sur le territoire européen, après les assassinats de Daphne Caruana Galizia, ces journalistes d'investigation maltaise, et de Jan Kuciak, ce journaliste de données qui lui aussi enquêtait sur la mafia, mais simplement en comparant, sans rencontrer des sources dangereusement, en comparant des données européennes et des rapports dans son pays, il y a eu des manifestations extrêmement importantes et des mobilisations très importantes. Mais en face, il y a une menace qui est dangereuse au point qu'on peut se demander si on n'est pas à un point de rupture, qui est aussi une montée de l'hostilité contre les journalistes, hostilité largement entretenue par des responsables politiques, mais qui est aussi d'une certaine manière, pour une part, spontanée. Et puis la montée, finalement, de nouvelles normes, d'anti-normes, qui sont portées par des dirigeants de contre-modèles politiques, et qui font que, pour la première fois, des agents travaillant pour un État se sont permis, dans une emprise diplomatique, d'assassiner un journaliste. Alors, il se trouve qu'on en a beaucoup parlé, plus que des assassinats de journalistes yéménites, parce que ce journaliste travaillait pour des grands journaux de Washington, notamment, et qui avait, pour une part, il appartenait à l'establishment. Mais où qu'on regarde, enfin, quels que soient les continents, on voit bien qu'il y a une montée de modèles portés par des hommes forts autoritaires et qui s'autorisent à la fois des mots, qui s'autorisent des politiques institutionnelles qui sont très hostiles au journalisme, à tout ce qui peut représenter une forme d'information de tiers de confiance, c'est-à-dire libre, celle qui est censée être l'information journalistique.
Vous et ça va jusqu'aux États-Unis. Vous faites référence à Donald Trump, vous faites référence à Rodrigo Duterte aux Philippines.
Précisément, j'allais en venir à Trump. On peut se dire, mais tout ça, c'est que des mots. Et puis, les mots sur Twitter, ça ne porte pas à conséquence. Mais précisément, on voit que cette violence verbale, elle commence à porter des conséquences très graves. Et si les États-Unis sont aujourd'hui cinquième au classement des pays dans lesquels le nombre de journalistes, le plus de journalistes ont été tués, alors c'est à cause notamment
d'une fusillade
en juin dernier
dans le Maryland.
À Annapolis dans le Maryland contre la rédaction du Capitol Gazette. On peut se dire c'est l'acte d'un déséquilibré. Néanmoins, c'est un déséquilibré qui depuis 6 ans, après qu'il avait fait l'objet d'un article qui lui avait déplu, diffusait sa haine, ses insultes, ses menaces contre le Capitol Gazette sur Twitter. Mots, il est passé aux actes.
Et une haine justement du journalisme et des journalistes qui est entretenue, comme vous le disiez, par une parole gouvernementale au plus haut sommet de l'État. Et ce sont des mots qui rejoignent ceux de la journaliste philippine Maria Tessa, qui dans le 1 Hebdo, dans lequel vous écrivez d'ailleurs aussi cette semaine, Christophe Deloire, livre un poignant témoignage sur son quotidien de journaliste aux Philippines. Elle est par ailleurs lauréate du prix de la liberté de la presse en 2018, mais elle est aussi poursuivie dans son pays par la justice et risque une peine de prison pour avoir fait son métier. Elle dit « Les journalistes philippins souffrent de campagnes menées contre eux sur les réseaux sociaux en particulier. Elle parle d'un monde beaucoup plus dangereux aujourd'hui pour le journalisme, avec des réseaux sociaux que les gouvernements utilisent pour répandre de fausses informations et des menaces quotidiennes par ce biais. Quelle peut être la réponse à cela, à votre échelle, à l'échelle de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, quand on voit que même les pouvoirs démocratiques s'emparent des réseaux sociaux, comme vous le disiez à l'instant, Donald Trump. Par exemple, on peut aussi citer Matteo Salvini en Italie, quand même ces pouvoirs démocratiques utilisent ces réseaux sociaux pour discréditer, voire entretenir une haine du journalisme et des journalistes.
Maria Ressa, dont vous parliez, cette journaliste philippine, qui est vraiment traitée par les autorités de Duterte aux Philippines comme une délinquante, alors même qu'elle fait des enquêtes, et que surtout les enquêtes qui ont déplu à Duterte, c'est les enquêtes qu'elle a faites sur les homicides perpétrés contre ceux qui sont supposés être des drogués, des trafiquants de drogue, mais au fond à la demande, sur commande des autorités de Duterte, et c'est pour ça qu'elle est traitée de manière extrêmement violente. Il se trouve que c'est aujourd'hui l'une des plus grandes journalistes du monde, elle a fait l'objet avec Khashoggi de la une de Time, personne de oui, l'année, mais même ça ne la protégera peut-être pas. Elle raconte qu'au fond, l'espace public, aujourd'hui, aux Philippines, c'est Facebook. le réseau social est devenu l'espace public. Et en fait, ce qui s'est passé au cours des dernières années, à la faveur de la montée des réseaux sociaux, c'est que ce moyen de communication qui peut sembler finalement ne faire que diffuser des informations, avoir une forme de neutralité, au fond, ces réseaux sociaux sont ceux qui décident aujourd'hui de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. On peut trouver ça très favorable, se dire ça échappe aux États, mais les États, en tout cas les États démocratiques dignes de ce nom, avaient mis en place des procédures, des règles, l'application de principes à travers les lois sur les médias, qui sont des lois invisibles pour le grand public. En France, par exemple, la distribution de la presse, la loi sur la communication audiovisuelle qui garantit mal, de manière très insatisfaisante, mais qui quand même a des vertus, apporte des garanties en matière d'indépendance éditoriale, d'honnêteté de l'information. Et qu'aujourd'hui, on est dans une forme de jungle informationnelle. Et dans la jungle, qui règne les prédateurs. Et donc, il est absolument essentiel de reposer des garanties dans un espace de l'information et de la communication qui est aujourd'hui globalisé et digitalisé. Pour éviter des distorsions de concurrence, c'est-à-dire que il y ait une concurrence faussée qui favorise la fausse information par rapport à l'information vraie.
Qui les met à la même échelle.
Qui même les favorise de manière mécanique, puisque le fonctionnement algorithmique, aujourd'hui, finit par favoriser ce qu'il y a de plus extrême, de plus polarisant, de plus passionnel, puisque les biais cognitifs des êtres humains favorisent ça et qu'une étude récente du MIT prouvait que les informations fausses ont un potentiel viral, finalement, 6 fois supérieur aux informations vraies. Ou vous avez des algorithmes qui favorisent tout simplement l'image par rapport au texte. Des choses qui sont absolument toutes simples et qui ont des effets absolument faramineux. Et donc, comment on fait dans cet espace digitalisé et globalisé pour remettre des principes, qui sont des principes démocratiques, qui sont les principes qui favorisent l'information fiable, qui favorise son indépendance, qui favorise le respect de règles déontologiques ou des méthodes de vérification. Et c'est pour ça qu'à Reporters sans frontières, on a créé cette commission internationale sur l'information et la démocratie, dont Maria Ressa, journaliste philippine, était membre, qui a dicté une déclaration sur l'information et la démocratie, qui vise à dire, au fond, nous, consommateurs, mais sans que nous, citoyens, l'ayons voulu, nous avons délégué aux plateformes numériques l'organisation de la place du village, l'organisation de l'espace public. C'est les plateformes aujourd'hui qui décident où mettre les tables et les chaises et qui s'assied dessus au centre de la place du village. Or, cette délégation, elle aurait dû s'accompagner de l'obligation du respect d'un certain nombre de principes. J'en cite qu'un, mais qui est évident, c'est que les lois des États démocratiques, on les connaît. Les lois des algorithmes, qui sont le code, l'algorithme lui-même, on ne les connaît pas. Donc la transparence, la neutralité de l'espace public, pas des acteurs évidemment, mais de l'espace lui-même, tout ça c'est des choses extrêmement importantes. Et donc c'est sur la base de cette déclaration que cette commission internationale composée de 25 personnalités de 18 nationalités est dictée, que 12 dirigeants de pays du Nord comme du Sud, de tous les continents, ont le 11 novembre dernier lancé une initiative sur l'information et la démocratie qui visera précisément à dire que des plateformes dans des pays démocratiques visant à favoriser l'information fiable, à rendre applicable le droit de chacun à une information fiable, c'est sur cette base-là que devrait être édicté dans le délai d'un an un pacte international sur l'information et la démocratie qui ne devrait pas être qu'un engagement verbal, mais qui devra avoir des conséquences, y compris des conséquences juridiques, très précise.
Mais justement, parlons-en de ces conséquences. Christophe Deloire, secrétaire général, je le rappelle, de Reporters sans frontières. Vous parlez donc de ce pacte sur l'information et la démocratie et de l'implication que vous voulez voir mise en œuvre des gouvernements dans la protection des journalistes et de ces règles donc que vous venez d'édicter. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard aujourd'hui de dire, voilà, en fait, on va essayer d'éclaircir les règles de l'algorithme et en tout cas les contraindre pour favoriser la bonne information et essayer de la servir en premier lieu au public.
Mais non, tant que des démocraties sont vivantes, ça n'est pas trop tard. En fait, il y a plusieurs...
Il faut qu'elles soient vivantes et favorables à cette justesse de l'information.
Il y a la protection des journalistes. C'est l'expression que vous utilisiez. Il y a du droit international posé par différents organes de l'ONU, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme, qui vise à protéger les personnes qui exercent le journalisme. Et puis, il faut prendre les choses sous un autre angle, qui est la protection du droit de chacun, pas des journalistes, de l'ensemble des citoyens, à une information fiable. Parce que si nous sommes manipulés, si ne nous parviennent pas des informations libres, collectées et diffusées de manière indépendante, vérifiées, alors nos droits civils, politiques, mais nos droits biologiques, d'une certaine manière, sont atteints. Et donc, comment fait-on pour favoriser ce type d'informations-là, alors même que les garanties jusqu'à présent étaient à l'échelle nationale et que dans un monde globalisé, de ce point de vue-là, ces garanties n'ont plus de portée. C'est ça qu'il faut réinstaurer en tenant compte de ce qu'est le monde de l'information aujourd'hui, le champ de l'information aujourd'hui. Le champ de l'information aujourd'hui, ce serait absurde de le regarder simplement sous l'angle du secteur des médias. Bon nombre de citoyens s'adonnent volontiers, parfois avec violence, parfois avec plus de subtilité, à la critique des médias. Aujourd'hui, c'est une critique du champ de l'information dans son ensemble qu'il convient de faire pour trouver les bonnes solutions, les solutions appropriées pour défendre le droit de chacun.
Dans le 1 Hebdo que je citais tout à l'heure, Christophe Deloire, vous écrivez un article dans lequel vous dites que l'écosystème de l'information comme le climat est déréglé. Autrement dit, sur les réseaux sociaux, on met sur le même plan l'information produite par un journaliste et la rumeur. Et comme vous dites, la rumeur peut aussi surpasser l'information. Si on file la comparaison que vous faites avec le climat, est-ce qu'on peut dire aussi que, est-ce qu'on peut parler d'un manque de volonté politique, de mesures insuffisantes aujourd'hui, voire même improductif pour lutter contre la désinformation et la liberté, et pour la liberté d'informer.
Non, mais on peut se dire que la comparaison avec le climat est malvenue, mais s'agissant du climat, au fond, il y a des causes humaines, il y a des causes structurelles. Il faut traiter les causes structurelles en tant que telles. Alors peut-être les politiques aujourd'hui n'ont-elles pas atteint tous leurs objectifs, mais au moins il y a des objectifs fixés par la communauté internationale. Il faut aller dans ce sens, en tout cas pour le climat, comme pour l'information. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix si on veut éviter, d'une part, un réchauffement excessif du climat et, d'autre part, peu à peu, un effritement des démocraties et, pourquoi pas, un danger qui peut leur être fatal. Parce que, au fond, si on regarde bien l'histoire, il n'y a pas de démocratie sans un champ de l'information dans lequel est promue, d'une manière ou d'une autre, l'information fiable.
Une dernière question pour la minute qu'il nous reste, Christophe Deloire. Vous parlez aussi dans ce rapport de Reporters sans frontières de 348 journalistes incarcérés dans le monde. Là aussi, c'est un chiffre en hausse, la Chine étant le pays qui emprisonne le plus. Or, on a vu ces dernières années, bien avant 2018, bien avant ces incarcérations, des mobilisations citoyennes très fortes en Chine pour dénoncer ces incarcérations. Est-ce qu'on peut dire que la mobilisation citoyenne dans certains pays n'est pas encore à la hauteur de la situation?
Je crois que si on regarde en Chine, il y a des dissidents, des blogueurs qui font des enquêtes, qui sont d'un courage absolument admirable, mais qui, à l'échelle du pays, je crois, ne sont pas si nombreux. Ils ne sont pas si nombreux pas parce que les Chinois dans leur ensemble seraient dénués de courage, mais parce que le pays tenu d'une main de fer, et que notamment, s'agissant des réseaux sociaux, toute organisation dès qu'on prend un peu trop d'importance, à titre individuel ou en petit groupe, alors le pouvoir frappe de manière extrêmement forte, et que malheureusement, la Chine dont on espérait, c'était la grande thèse, qu'à la faveur des échanges commerciaux, elle s'ouvrirait, au fond, le pouvoir y tient de plus en plus l'information, et en utilisant des moyens technologiques, mais aussi en incarcérant, malheureusement, les violations traditionnelles, extrêmement violentes des droits de l'homme, du journalisme, sont aujourd'hui absolument d'actualité en Chine.
Merci beaucoup Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation Reporters sans frontières. Je signale donc à nos auditeurs qu'ils peuvent vous lire cette semaine en kiosque dans le 1 Hebdo qui pose cette question. Sommes-nous désinformés? Et on peut réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceculture.fr à la page des enjeux internationaux.